Bonsoir à tous. Oui, ça marche les enceintes ? Bonsoir à tous et bienvenue à la BPI. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir donc, à l'Espace Musique pour la première d'un cycle de rencontres autour de l'édition musicale qui se poursuivra en novembre. Donc regardez bien le programme et les horaires pour les deux prochaines rencontres. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces conditions un peu difficiles aussi. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Guillaume Bellhomme des éditions Lenkalente et Sylvain Riflet et son saxophone pour évoquer la figure de Moondog. Avant de laisser la parole aux invités, je voudrais remercier vraiment mes collègues Bernadette Vincent et Claude Marin-Herbert qui sont les chevilles ouvrières et artisans de ce cycle qui devrait nous passionner. Voilà, donc je laisse la place. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt.
Merci Xavier. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, et bienvenue dans cet espace musique, un endroit où on peut encore découvrir de la musique, en écouter, un endroit où on peut se documenter, bien sûr, l'étudier, un endroit où on en joue aussi, on le verra tout à l'heure avec Sylvain Riflet et sa visitation de Moondog, et puis c'est aussi un endroit où on aimerait parler musique. Et on va donc parler musique cet automne. Alors comme on est dans une bibliothèque, nous on s'est dit qu'on allait parler musique avec des gens auxquels on pense pas forcément quand il s'agit de musique, mais auxquels on a pensé nous. C'est des gens qui font des livres sur la musique, des auteurs, des éditeurs qui font des livres avec sur la musique, mais aussi des livres avec de la musique dedans. Voilà. Donc à chaque rencontre avec un de ces éditeurs, il y aura une intervention avec des musiciens. Donc on aura le duo Zia fin novembre pour la visite des éditions Micro-Sillon et une soirée autour des compositrices de musique contemporaine qu'on a imaginée à partir du livre « L'égalité en acte » aux éditions Musica Falsa le 13 novembre. Ce soir, avant d'écouter Sylvain Riflet sur Moondog, nous avons le plaisir d'accueillir les éditions Lenkalente en la personne de Guillaume Bellhomme, qui est également auteur de nombreux ouvrages chez d'autres éditeurs. Alors, si je peux me permettre cet aparté un peu personnel, c'est la première fois qu'on se rencontre avec Guillaume, mais en fait, on se connaît depuis longtemps. Parce que, comme pas mal de gens de ma génération, à une époque, j'ai plongé la tête la première dans des choses assez bruyantes, des choses qu'on retrouve un peu dans ce livre-là, là, qui vient de paraître, de Guillaume. Des choses comme Sonic Youth, My Bloody Valentine, on était dans les années 90. Des guitares qui font beaucoup de bruit. Et puis quand je suis ressorti de ça, pas complètement indemne, toi non plus je crois, ça a été pour écouter des choses comme Morton Feldman. Donc Morton Feldman, pour situer, c'est un compositeur américain des années 50, proche de John Cage, de Beckett, de peintres comme Mark Roscoe. Un compositeur dont la musique pourrait être décrite comme une extension un peu illimitée de certains préludes de Debussy, comme Les Pas sur la neige, musique très immatérielle. On est donc assez loin de Sonic Youth. Quoique. et Guillaume, lui aussi, a longtemps traîné dans les concerts de Rock Noisy, je le sais. Mais le premier livre de lui que j'ai lu, Au mot il reste, c'était justement sur ce compositeur étrange et fascinant qui s'appelle Morton Feldman. Voilà. J'ai gardé la première édition ici. J'ai croisé ensuite la signature de Guillaume au bas d'articles de revues comme Mouvement, Les Inrock, et sur la couverture d'autres ouvrages, plutôt sur le jazz ou les musiques improvisées. Il y avait donc du chemin depuis le rock indé de la fin des années 90. Le paysage avait changé, mais il y avait un chemin qui était, à mon sens, bien le même chemin. Et puis, je me suis rendu compte que Guillaume avait un blog, Le Son du Grizzly, qui était plutôt une revue en ligne sur l'expérimental, les musiques improvisées, et qui est devenue une revue tout court,
une revue papier.
Il faudra d'ailleurs que tu nous dises pourquoi, en 2020, tu tiens tant à cette forme de publication plus compliquée, fragile matériellement, économiquement. Mais avec le début de Lenkalente, alors Lenkalente, ça c'est au début des années 2010, je pense que j'ai un élément de réponse. Parce que voilà une série de textes d'auteurs comme Fénéon, Kafka, Wolfi, Zara, Mirbeau. Donc une constellation de singularités bien marquées. Chaque fois accompagnée, associée, alliée à des pièces de musique originales, de musiciens actuels. Alors c'est tout petit, mais à l'intérieur de ces petits livres très, très singuliers, vous allez trouver un petit disque d'un, voilà, de musiciens comme Dominic Lazzaro, Bill Nace, Nurse With Wound, très présent au catalogue. Voilà, donc la première question serait de savoir comment tu as rassemblé tout ça. Voilà.
Il faut que tu reprennes depuis le début. Parce que tout ça, quoi.
Tout ça, c'est-à-dire cette...
La pop des années 90.
Ouais, la pop, bon. Le chemin de la pop des années 90 a un projet éditorial qui rassemble texte et musique.
En fait, bon, alors il y a dit, bon. Alors bonsoir d'abord, vous êtes nombreux, c'est bien, masqués mais nombreux. Tout ça, en fait, voilà, y a beaucoup de musiciens vous diront qu'il n'y a qu'une musique qui existe, c'est la bonne. Et quoi qu'on écoute, on peut écouter de la musique latine, de la musique contemporaine, du classique. Bon, voilà, il en reste la bonne musique au-dessus du panier de chaque genre que tout le monde peut écouter. Variété y compris. Il y a de la bonne variété, comme il y a du bon jazz, ça existe. Donc, moi, quand j'ai sorti ces deux bouquins sur Morton Feldman et Eric Dolphy, j'avais un ami, qui est de Chicago, qui s'appelle Ken Vandermark, un saxophoniste qui écrit et puis qui enregistre 30 disques par an, qui m'a dit tout de suite, je vois le lien, il n'y a pas de problème. Morton Feldman et Eric Dolphy, on ne va pas les classer dans les mêmes genres, comme on ne classera pas Morton Feldman, Eric Dolphy et Sonic Youth ou Tom Waits dans les mêmes genres, mais bon, peu importe. Il en reste la bonne musique, selon moi. Après, moi, on me propose d'écrire des anthologies en jazz et puis là en pop, qui est plus mon histoire, du coup, puisque moi je suis né en 76, mes aïeux. 1976, donc je suis plus tout jeune non plus, mais c'est mon histoire, ça, c'est alors que l'histoire du jazz n'est pas la mienne, forcément la mienne. L'histoire du jazz, l'anthologie de jazz qui est parue au Layer ou chez le Moelle Rest, je parlais de gens que j'ai pas pu connaître et pas pu entendre. Coltrane, j'ai jamais entendu en concert. Il était mort quand je suis né, etc., etc. Dolphy encore moins. Là, pop fin de siècle, c'est mon histoire. C'est vraiment ce que j'ai vécu. J'avais un fanzine à l'époque, donc j'étais en seconde. On va aller dans les détails tout de suite. Hein. J'étais en seconde, un fanzine à Rennes. Et voilà. Et à Rennes, il y avait déjà les transmusicales, évidemment. Et pour les transmusicales, à l'époque, bon, ce qui ne se ferait plus maintenant, malheureusement pour les gens qui ont des blogs et des machins et qui sont jeunes, mais ils filaient des passes comme ça, quoi. Donc moi j'avais, 14-15 ans, j'arrivais avec mon passe parce que j'ai un pauvre fanzine tiré à 15 exemplaires à Rennes, que je déposais à Rennes Musique, la seule boutique un peu indépendante en musique à Rennes à l'époque, au début des années 90. Et les transmusicales me filaient des passes à moi et à mon compère pour aller voir tous les concerts, etc. Machin. Donc on traînait dans tous les... Bref, tout ça pour dire que ça, c'est mon histoire. Vraiment, la pop, oui, la pop 80, 89, 95. Je m'arrête à 95. Parce qu'après, pour moi, après 94, avec l'album de Blur qui est inécoutable, alors que Blur a fait un bon disque, le premier... après Blur, il n'y a plus Blur. Et puis après Blur, en fait, clôt la séquence pop indé américaine, anglaise, vraiment intéressante, et même s'il s'est fait des trucs certainement très bien, et même que je connais pas après. Mais donc pour moi, voilà, il existe qu'une bonne musique. Moi, après avoir écouté toute cette pop indé, je suis passé à la bossa nova, au Tropicalia, donc au Brésil, et puis après au jazz par Coltrane, et puis par Eric Dolphy. Et puis en fait, j'ai moi-même fait des disques. En tant que musicien, j'ai tourné, j'ai sorti des disques à droite, à gauche. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire sur un musicien. Ce musicien était Eric Dolphy, donc un musicien de jazz, que j'écoutais beaucoup à l'époque. Et j'ai écrit son portrait, que j'ai proposé aux éditions Marseillaises, le Moelle Rest. Et voilà, sans penser à être édité, mais j'ai écrit son truc. Enfin voilà, ce que je pensais de sa musique. Enfin, pas ce que je pensais de sa musique, mais... ce que j'y entendais, et puis en revenant sur son parcours, etc., que j'ai proposé donc après, texte que j'ai proposé au Moelle Rest qu'il a publié. Et puis après, bon voilà, Enfin, avant, il y avait déjà Elisa Rock, il y avait Jazzot, il y avait. Je pense que le Moeres n'aurait pas publié ce bouquin si j'avais pas écrit aux Inrecuptibles à l'époque. Mais bon, bah voilà, tout ça, ça fait.
Mais c'est aujourd'hui, dans les années finalement 2010-2020, enfin à partir de que tu as ressorti, enfin que tes premières amours, si je puis dire, c'est-à-dire que tu as ressorti des textes de nouveau sur de la pop indé des années 90, le premier.
Parce que ça a son, parce que j'ai beaucoup écrit sur la musique contemporaine et sur le jazz. Et jazz, que je dirais créatif, parce qu'après je me suis fâché aussi avec d'anciens employeurs à Jazzot et machin. Parce que pour eux, il y a une tradition du jazz et le jazz ne doit pas forcément être que créatif. Il peut être aussi du jazz plan-plan, tiens, on va rejouer Louis Armstrong ou on va rejouer machin. Donc il y avait une mini bataille à mener chez eux parce que. Lors des comités de rédaction, c'était assez difficile de temps en temps. Les mecs étaient en train de brandisser leur Django Edwards, Django Reinhardt, pardon. Et c'est presque la même chose pour moi. Alors Django Reinhardt et leur machin, et puis bon, t'es en train de lutter avec du Vandermark et même Dolphy d'ailleurs passait plus. Donc en fait, l'idée c'est un peu ça, c'est essayer de sortir du lot de la pop pour reparler de la pop. Les trucs vraiment qui ont été faits vraiment créatifs, il y a des trucs que j'écoutais à l'époque et que j'écoutais beaucoup qui ne sont pas retrouvés dans le livre parce que ça c'est 90 textes sur 90 groupes avec une sélection musicale, une sélection de disques, etc. Donc de chroniques. Mais il y a des groupes que j'écoutais tous les jours, deux, trois fois, Southern Yardstar ou Cocteau Twins qui ne se retrouvent pas dans le bouquin parce qu'après, entre ce que tu as écouté quand tu avais 18 ans, 16 ans et puis ce que tu en fais maintenant à 40, voilà, il s'est passé des choses, quoi. Et puis tu as écouté d'autres choses. Donc
tu dirais pas que c'était le même chemin, comme ce que je
c'est le même chemin. Ah si, c'est un même chemin, puisque bah, c'est de la musique et c'est de la bonne musique. Après, dans ce livre, on trouve aussi bien Nirvana que des trucs inconnus comme Throwing Muses ou Acid Temple ou
The X.
Ou The X, ouais, qui est moins inconnu que Acid Temple. Bon, j'ai eu la chance de voir Kurt Cobain en concert. Il faut forcément que tu le racontes à un moment donné comment ça s'est passé. Et puis après, le fait d'avoir vu Kurt Cobain ne te fait pas dire en écoutant John Coltrane, ouais, bah là, il se passe rien. Bah non, t'écoutes John Coltrane après, bah il se passe quand même quelque chose. Même si t'as vu Cobain en concert, ou les Pixies, ou Pete Gervais en 91.
Bien sûr. Et le choix de venir à la littérature, finalement, de publier dans cette collection Lincalent des textes. Donc d'auteurs très singuliers, comme, toujours accompagnés d'une musique alors là très contemporaine. Ça, ça t'est venu comment ? C'était une idée qui t'est.
Bah, Lincalent, en fait, c'est né parce que j'avais sorti des disques en tant que musicien un peu vraiment à droite à gauche en Californie, au Japon, en Espagne. Et à un moment donné, les gars, je me suis mis à chanter en français, je chantais en anglais à l'époque. Je me suis mis à chanter en français, puis les mecs s'y retrouvaient plus parce que ouais, on comprend pas ce que tu dis. Bon. Donc, pour continuer à sortir et pas de label intéressant, selon moi, à l'époque en France, donc c'était fin des années 90. Donc, j'ai créé Lincalent, enfin, c'est pas créé, c'est un statut d'association au début, et c'est une étiquette sous laquelle je produisais mes propres disques. Enfin, il y en a eu deux à moi, et puis deux groupes de free jazz texans. Ça n'a pas rencontré un succès formidable, mais la musique est pas mal.
D'accord.
Et ensuite, en fait, j'étais à Paris à l'époque, quand je suis arrivé à Nantes, j'ai quitté un boulot, il a fallu que je m'occupe. Je me suis relancé Lincalent. Là, je vais sortir, comme j'ai une bibliothèque plutôt fournie, des vieux textes de la fin du 19e, début 20e, une période que j'aime beaucoup. Avec des tonnes d'auteurs qui sont introuvables maintenant, même en librairie indépendante, qui se disent super pointu et machin, on les trouvera pas. Charles-Louis Philippe, même Mirbeau, bon, Mirbeau c'est plus facile à trouver, mais je sais pas, Oscar Panizza, André Salmon, enfin des trucs qu'on va chez Marie-France à Montmartre, on les trouve pas, c'est dommage. Donc c'était l'occasion de la rééditer, et l'idée c'était de continuer quand même à faire de la musique par un autre biais que le mien, parce que moi j'ai décidé en 2006, c'était mon dernier concert donné, j'ai posé ma guitare au bout de 5 minutes, j'ai pris un taxi, je suis rentré chez moi parce que ça me convenait plus, Je me suis fâché avec mes musiciens d'époque. J'arrivais plus à parler en public en tant que musicien. Ça ne m'intéressait plus, en fait. C'était pas forcément de leur faute. C'était de la mienne, ça me disait plus rien. Mais bon, continuer à faire de la musique par ce biais-là, c'est reprendre des vieux textes qu'il y avait chez moi et que je trouvais super et qu'on ne trouvait plus en librairie. Et puis demander à des musiciens que j'aime bien, Daniel Mensch, Denis Lazereau, Nurse With Wand, de l'illustrer par le son, plutôt que de leur demander, comme Bert Sled, de faire des petits dessins, etc. Enfin, à des illustrateurs de faire des dessins, machin, demander à des musiciens d'illustrer le texte. Certains ne parlent absolument pas français, ne savent pas de quoi parle la nouvelle, mais ils sont contents, ils me disent « ouais, d'accord, on va le faire ». Et puis donc ils le font, et puis parfois c'est très bien, puis parfois c'est moins bien. Enfin bon, moi je sais ce qu'il y a dans le texte, ce qu'il y a sur le disque, ça colle moins bien, mais bon, il y a toujours deux idées qui peuvent s'entendre de temps en temps. Quoi. En tout cas, les textes, je suis toujours ravi.
D'accord. On parle de ceux de Moondog maintenant, peut-être ?
Ben oui,
puisque la publication, la première chose que tu as publiée de Moondog aux éditions, c'était pas un disque, c'était des textes, justement. Donc peut-être qu'on peut parler de Moondog, situer un petit peu le personnage.
Oui, bien sûr. Moondog, bon, compositeur américain, qui a longtemps vécu en Europe sur la fin de sa vie. Il est né en 1916, si je dis pas de bêtises. Très iconique parce que voilà, Moondog a une personnalité qui l'a fait s'habiller d'une certaine façon, il voulait se démarquer. À 16 ans, il est tombé sur un bâton de dynamite, en gros, sur une voie ferrée, donc il est devenu aveugle à 16 ans, donc assez tard, il n'était pas aveugle de naissance. Il a appris la musique en autodidacte. Il s'est beaucoup confié à sa sœur, il avait une petite sœur qui lui lisait des livres. Et je crois qu'un de ses... Enfin, j'en suis sûr, mais enfin, je le sais. Je ne sais pas comment s'appelait ce livre, mais sa sœur lui a lu un livre un jour qui parlait d'un musicien aveugle qui adorait Bach. Et donc, il s'est mis à écouter du classique, à écouter Bach, etc. Et donc, il s'est mis à composer sur des objets de fortune au début. Je crois que c'est un tambour, une batterie en carton au début. Et puis après, il a créé ses propres instruments. Son père était... pasteur. Il est parti pour New York. Il venait de l'ouest des États-Unis. Il est parti pour New York vivre sa vie, en gros, parce qu'il s'entendait pas très bien avec ses parents. Et puis, en fait, il a vécu en SDF, quoi. Il n'avait pas d'adresse fixe. Il s'est un peu à peu établi sur le coin de la 6e avenue. Il était déguisé. D'abord, il faisait ses propres vêtements, donc on le prenait pour le Christ, machin. Et puis, comme il lui avait. Ne croyait plus en Dieu parce que cette histoire de bâton dynamite qui lui explose à la face et qui le rend aveugle l'a fait un petit peu douter. Il s'est habillé comme il voulait et puis on le prenait pour Jésus. Donc ça lui a pas plu. Donc il s'est dit, tiens, il s'est rapproché de la mythologie scandinave. Il a commencé à s'habiller en viking tout en composant, évidemment, parce que ça c'est le côté anecdotique de la chose, mais tout en composant et en écrivant des poèmes. Ses poèmes, il les écrivait, il les photocopiait, il vendait ses photocopies par recueil ou alors à la feuille dans les rues de New York. Et puis c'est peu à peu devenu, donc dans les années 40-50, un personnage, une icône de New York. Quoi. Il y avait Duke Ellington qui venait, Charlie Parker qui venait le voir, qui rêvait de faire un disque avec lui. Parker est mort quelques années après avoir émis le souhait, donc ça ne s'est pas fait. Il a fait fantasmer plus d'un jazzman. Il a sorti ses premiers disques grâce à un ingénieur du son qui l'a enregistré en fait dans les rues de New York. Et donc j'ai oublié le nom, mais il a sorti ses premiers disques sur Prestige, qui est une marque de un label en gros de jazz, donc qui était aussi réputé pour très mal payer ses musiciens. Mais bon, il a sorti quand même 3 albums sur Prestige. Et puis ensuite, il se sentait très européen dans l'âme. Et il s'est installé en Allemagne, où il a très bien vécu. Il a vécu 25 ans comme un SDF, en gros, aux États-Unis. Une fois qu'il est arrivé en Europe, ça s'est mieux passé. Et puis voilà, il écrivait pour des orchestres. Il passait au Transmusical une fois. Je n'ai pas l'année, mais...
Dans les années 90.
Ouais. Voilà. Donc, pour situer le personnage, voilà. Après, il avait une conception très particulière de la musique. C'est le genre de compositeurs qu'on peut pas rattacher forcément à une école ou à les minimalistes américains, Steve Reich, Philip Glass, On dit de lui que c'était le créateur du minimalisme en musique. Or, lui a toujours dit que c'était pas le cas. Lui, il se raccrochait plus à la tradition musicale européenne, classique, Bach, surtout Bach, ouais, qu'il adorait. Et puis, ses compositions, il considérait comme des canons, et sa poésie, comme des, voilà, c'était des couplets, quoi, c'est-à-dire deux phrases qui résumaient un peu son univers. En tant que poète, il a été inquiété par la justice américaine. Parce qu'il a pu, il était très, évidemment, en tant qu'SDF new-yorkais, ce qu'il écrivait sur la société américaine de l'époque n'était pas à son avantage. Donc il s'est fait deux, trois fois ennuyer par la justice. Mais rien de grave. On l'a accepté en Europe.
On lit quelques-uns de ses poèmes, ses couplets.
Oui.
Je te laisse commencer.
C'est là que le vieux de 76 chausse ses lunettes. J'ai pas dit la lune, tu commençais pas. Et donc ça, ce sont des couplets, ce qu'il appelle donc des couplets, des distiques à l'ancienne. Ça a paru dans une revue qui s'appelait Lab, je crois que ça paraît plus.
C'est devenu une maison d'édition,
Mais la revue
confidentielle,
ne paraît plus, mais. C'est tiré de là, en fait. Et puis, on a repris ça parce que la traduction française, qui est de Marie-Hélène Estève, est, selon moi, meilleure que la traduction originale, que la version originale des textes. Donc, j'avais demandé à Estève, la traductrice, si on pouvait en faire un petit livre, parce que cette revue est vendue très cher et qu'il faut mieux mettre 5€ dans un petit livre plutôt que 35 dans une grosse revue. Bon, voilà. Donc, troisième distique. Il faut acheter chaque année une nouvelle auto où tous les Dupont du quartier vont nous faire la peau.
Du bateau tombe un chevalier, tout armé, dans le bleu. Il voit un homard et lui dit « Belle armure, à nous deux !»
Neuvième, une fée haute de 3 pouces m'a toisé sans appel et d'un coup de baguette m'a proportionné à elle.
Elle achète une couverture pour couvrir sa banquette. La couverture était jolie, elle l'a recouverte.
Alors, Moondog a visité des réserves indiennes quand il était petit. Son père l'amenait en tant que pasteur dans les réserves, donc sa mythologie s'est forgée sur la Scandinavie et aussi sur les Indiens. Ce qui explique à peu près mal ce 14e couplet. L'oiseau qui vient de se poser, indien sur ton épaule, dis, je suis l'esprit de ta mère, elle est morte, et je vole.
J'ai défenestré de sa suite, au Ritz, un diplomate. Mieux qu'un chat de gouttière, il est retombé sur ses pattes.
Vous aurez remarqué qu'il a gardé la meilleure pour lui.
C'est un peu vrai.
Esclave, prends-moi dans tes bras, soupira la princesse. Il obéit, elle cria. 20 sabreurs le dépècent.
Dans tous les métiers d'aujourd'hui, il n'y a que des putains qui crient « Vends-toi, il n'y a que ça de vrai, le reste, c'est baratin. »
Angle, saxon, vite à la plage, arrêtez les Normands, trouvez les moyens qu'il faut, n'en laissez pas un vivant.
Une fille, aux tresses si longues qu'elle touchait la terre, pieds et poings, je m'y suis lié, il n'y a plus rien à faire. Sylvain, c'est à toi.